J'en dirai des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Mickaël Goncalves.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il fête cette année ses 50 ans. Il fait partie des héros légendaires de la bande dessinée européenne. Corto Maltese, le héros créé donc en 1967 par Hugo Pratt, est de retour, toujours aussi élégant avec son caban à boutons dorés, sa fine cravate noire, son pantalon à pattes d'éléphant, sa boucle d'oreille et ses favoris. Après les grands froids de l'Alaska, dans Sous le soleil de minuit, l'aventurier est pris de liberté et rebelle à toute forme d'autorité embarque à nouveau pour l'Afrique à la recherche d'un trésor perdu. Equatoria de Juan Diaz Canales et Ruben Pellierero est paru chez Casterman. On y retrouve ce mélange si particulier de paysages, de poésie, de mélancolie, d'action, d'érudition et de rencontres qui a forgé la légende de Corto. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
C'est votre deuxième album de Corto Maltese. Alors, le premier a remporté un vrai succès. Il y avait un vrai suspense sur la façon dont les fans de toujours allaient recevoir votre travail. Là, j'imagine que la pression est un petit peu retombée pour vous.
Oui et non. Ça veut dire que à chaque fois qu'on fait face à un défi narratif, soit Corto, soit des autres œuvres, il y a toujours une question de savoir comment il va être accueilli. Mais sinon, c'est vrai que c'est plus tranquille après avoir un bon accueil.
Vous êtes un petit peu rassuré.
Oui, côté de la critique et même côté des lecteurs, qu'à la fin, c'est le plus important.
Alors, l'histoire se passe dans cet album en 1911. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Equatoria, ce n'est pas une contrée imaginaire. C'est une région qui a réellement existé, qui fait partie de l'actuel Soudan du Sud, Juan Diaz-Canales. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'en faire le nœud géographique de cet album-là?
Oui, cet aspect que vous disiez, c'est important parce que effectivement, ça nous donne un aspect un peu réel parce que c'est pas tellement connu l'Équatoria et pourtant c'est une région qui existe, que c'est une région toujours conflictif parce que à ce moment-là, il y a une guerre civile qui se déroule à cet coin du monde. Donc, pour nous, c'est important, cet aspect de Corto Maltese, lequel nous parle des choses qui se sont passées au début du XXe siècle, mais qu'il n'est encore pas fini et que ce sont des conflits qui sont de toute actualité.
Oui, alors à l'époque, c'est vrai que c'est une région qui officiellement, vous me dites si je me trompe, fait partie de l'Empire Ottoman, qui est en réalité rattachée à l'Égypte, et l'Égypte à cette époque est sous protectorat britannique. Et c'est vrai que ces trois strates-là, on les retrouve évidemment dans la narration de l'album, on va pas tout raconter évidemment. Alors, mais le plus important, il y a évidemment cette dimension politique, mais le plus important, c'est pas seulement l'histoire, c'est pas seulement les péripéties, la recherche de ce miroir, miroir d'un prêtre Jean, un objet qui a été rapporté des croisades. Le plus important, c'est peut-être l'atmosphère, comme toujours dans un Corto Maltese, ce mélange, je le disais, de paysages, de poésie, d'action, de mélancolie. Graphiquement parlant, Ruben Pellierero, comment est-ce que vous installez cette atmosphère-là qui est très très particulière et qui fait réellement partie de la légende d'Hugo Pratt et de Corto Maltese?
À mon avis, c'est un mélange de plusieurs moments de l'histoire de Corto qui sont là. Et en tout cas, avec l'ajout de ces images, je ne peux pas voyager avant de signer l'album, évidemment.
Oui.
Mais c'est les images qui, dans ce cas, dans un premier moment, Juan Diaz m'a envoyé, dans le moment qu'il fait le scénario, m'a envoyé beaucoup de documentation. Et j'ai fait dans la tête une mélange. C'est une chose difficile à dire parfois, de donner une explication, mais c'est d'une manière naturelle que je prenne les images, les images prattiennes, et j'ai fait mon propre image.
Oui, les images prattiennes, c'est-à-dire que vous êtes réellement inspiré des albums précédents.
Inspiré, évidemment, pourquoi je connais les manières de dessiner des bras, de jouer avec la lumière, avec le blanc de la casse. Tout ça, c'est très important pour moi, pour faire la suivre de Corto Maltese. Et évidemment, il y a plusieurs choses en plus. qui sont de mon propre...
Alors justement, c'est ça qui nous intéresse aussi, parce que le personnage de Corto, on le connaît, il est bien là, hein, mais qu'est-ce qu'il y a de Ruben Pelliereo dans le Corto Maltese, nouvelle formule ?
Parce qu'il y a beaucoup, et le lecteur qui connaît mon travail ancien, je pense qu'il peut dire que je suis très reconnu. Si bien on a changé le style, c'était plus expressionniste, mais mon plaisir pour le cadrage, pour étudier tous les petits détails narratifs qui font que le lecteur prenne dans l'intérieur de l'histoire, que c'est
il y a un côté très cinématographique aussi, oui. Hein, avec les changements entre plan large, plan rapproché.
Si, je pense que ça, c'est de mon propre manière de voir la BD. Et en même temps, je prends de plusieurs choses de la maître Pratt qui sont dans, que je mets dans cette histoire.
Oui, par exemple, les quatre bandes horizontales, donc chaque planche, il y a quatre bandes horizontales. Vous ne pouviez pas vous extraire de ça, vous ne pouvez pas faire différemment sur ce plan-là.
Je pense que c'est très important. C'est un peu respectueux avec plusieurs choses qui sont, on peut dire, le signe pratien de son dessin. Pour exemple, le côté de dessiner d'une manière comme un layout vite, très expressionniste, de jouer avec les tâches. Tout ça, c'est très important à respecter.
Et le personnage Corto Maltese, parce que c'est un personnage à la fois très attachant, très connu, un personnage qui est pas très facile, j'imagine, à dessiner, parce que il y a ce que l'on voit, mais il y a aussi ce qu'il exprime, mais il le fait de façon très très diffuse. Il y a beaucoup de choses dans les yeux, dans le dans le sourire, plus que finalement dans les traits globaux du visage.
Pas facile, évidemment, pas facile. Pourquoi en plus, Pratt évoluait beaucoup dans son personnage. Il changeait.
Le personnage vieillit, rajeunit
oui,
en
oui,
permanence.
Oui, oui, Corto de Pratt, c'est Corto pendant tous les temps, mais il changeait beaucoup. Choisir quel Corto pour dessiner, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que le visage de Corto, les yeux de Corto, c'est une chose très difficile. Mais c'est nécessaire de respecter le plus proche tout ça. Le nez, la bouche, tout. T'as les mêmes attitudes.
La silhouette, la posture, la façon de se déplacer, la démarche.
Si, ce sont nécessaires, sinon tu fais d'autres choses, tu fais un marine seulement, mais pas à Corto Maltese.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Ruben Pelliereo et Juan Díaz Canales pour Equatoria, le nouveau Corto Maltese qui vient de sortir chez Casterman, traduit de l'espagnol, il faut le préciser, par Anne-Marie Ruiz. Alors ce qui est aussi très important hein, dans un album de Corto Maltese, ce sont les rencontres. Et dans cet album, on croise par exemple Churchill, mais surtout Corto et son ami reporter Aïda vont se retrouver sur le boutre d'un sacré personnage, Henri de Montfred, l'aventurier français. Comment est-ce que vous est venu l'idée de cette rencontre, Juan Díaz Canales?
C'est grâce à Ruben qui m'a donné la bonne piste. Parce que, honnêtement, je ne savais pas qu'Henri Montfred, c'était une référence pour Europrat, pas seulement comme un romancier, on peut dire, comme un écrivain, mais aussi comme un homme d'action et bon, aventurier.
C'est un personnage extraordinaire.
Oui, tout à fait. Et c'est après ça que Ruben m'a conseillé de lire les bouquins les différents bouquins de mémoire et tout ça d'Henri Montfred, que je me suis dit, bon, ça mérite un rôle important dans l'histoire prochaine de Corto Maltese. Ça tombait bien parce que on rappelle que Henri Montfred a fait ses affaires surtout dans la mer Rousse, c'est là qu'il a fait le trafic de hashish, de armes aussi, on ne sait pas si d'autres choses.
Ah, oui, enfin, il dit dans l'album qu'il touche pas aux esclaves, il fait pas de trafic d'êtres humains. Vous êtes moins sûr, visiblement.
Oui. c'est, je suis pas sûr. À mon avis, ce sont des personnages avec une telle complexité, pas seulement que de côté biographique, mais aussi moral, que c'est risqué de dire des choses qu'ils ont fait ou qu'ils ne sont pas fait, mais,
oui. Enfin,
mais
quand même. C'est le privilège du scénariste de bande dessinée.
Bah, oui.
Alors, on va se plonger justement dans l'atmosphère de l'album, parce que nous avons mis en onde un petit extrait de cet album, une scène qui nous emmène justement au cœur des trafics d'Henri de Montfred, une scène qui débute à la page 29, une scène autour de laquelle nos héros vont faire une bien étrange découverte sur une balise qui flotte comme ça au milieu de la mer Rouge.
Ya. Ya.
Serait-il possible de savoir pourquoi ce gamin ne cesse de crier ?
Ya.
C'est une coupe de la vie des marins. Ils coupent le bois pour la journée. Ils accompagnent chaque coup d'un cri pour que nous sachions que ce n'est pas le bois du mât qui s'est fendu.
Ya.
Un peu taciturne, ton ami, non ?
Ça lui arrive souvent. Plus il est prêt d'atteindre son but, et plus il devient mélancolique.
Assez de peinture pour aujourd'hui. Maintenant, nous devons nous occuper de certaines questions professionnelles. Corto et moi, nous approcherons du lieu de l'échange. Si tout marche comme prévu, nous reviendrons avec l'argent. Sinon, prenez les fusils et venez nous chercher. C'est un piège. Il ne devait y avoir personne.
Attends, mon Fred. C'est une femme.
Non. Ils ont pris les perles et n'ont pas laissé l'argent promis. Il vaudrait mieux que tu me donnes une explication, jeune fille.
Je ne crois pas qu'elle soit coupable de quoi que ce soit. On dirait que tes clients te l'ont laissé en paiement.
Et que vais-je faire d'une telle marchandise ?
Marchandise ? Mon Fred, tu devrais être plus attentif à tes associés. Et au fait, à ton vocabulaire aussi.
Voilà, Corto Maltese, anti-esclavagiste, anti-colonialiste, un petit peu donneur de leçons quand même, de temps en temps, gentiment, mais, mais quand même un peu féministe aussi, Juan Díaz-Canales ?
Là, c'est trop dire. Ça veut dire que c'est un peu pareil avec la question écolo. Et il faut pas tomber dans un certain anachronisme par rapport à cette mouvement qui à cette époque-là n'était pas vraiment développé. Donc c'est vrai que Corto, il y a un respect absolu sur les femmes. Mais dire que c'est féministe, c'est un peu, oui. un peu trop.
En tout cas,
quoi,
c'est pas un idéologue, en tout cas, Corto.
Hein. Non,
plutôt
pas du tout.
Un pragmatique, il va comme ça, un peu au gré du vent, et il s'arrange toujours pour rester du bon côté, quoi.
Oui,
c'est
oui,
un peu un opportuniste, quand même. C'est pas très gentil de dire opportuniste, mais on va dire pragmatique.
Non, pas que pragmatique. C'est plutôt un très individualiste. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il s'engage dans des problèmes avec des groupes, par exemple, des plus démunis, des plus menacés, on peut dire, des ethnies et tout ça. Mais en même temps, il est capable de choisir un truc qui le bénéficie à lui-même, parce que c'est clair pour lui de subir son propre peu avant que les autres.
Alors, il y a beaucoup de femmes dans cet album. Il y a donc Afra, hein, cette ancienne esclave africaine que nos héros viennent de découvrir dans l'extrait que nous venons d'illustrer à l'instant. Il y a Aïda, la journaliste. Il y a Ferida aussi, une exploratrice qui recherche son père. Trois femmes très belles, forcément. Trois femmes avec de forts caractères aussi. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que dans Corto Maltese, ce ne sont pas des faire-valoir. Les femmes sont vraiment des personnages à part entière.
Oui, tout à fait. C'était un parti pris pour nous de mettre en avant cet aspect plus féminin dans cet album. Et ça qu'on essayait, c'est de trouver des personnages féminins tels qu'on a aimé toujours dans la relecture de Corto Maltese, soit Soledad ou Veneziana Stevenson. Cette femme, ces personnages féminins qu'on a toujours adoré, qui, au moment donné, mérite elle-même une histoire à part de celle de Corto.
Oui, alors justement, comment est-ce que vous les avez imaginées, ces femmes, Ruben Pellier-Hero, parce que réellement, elles ont chacune une personnalité et qui s'exprime également par leurs attitudes physiques.
Évidemment, il y a une base de les personnages réels, mais pas tous. Mais,
de personnages réels, c'est-à-dire que vous avez travaillé sur des photos ?
Existé, en premier moment, pas sur les photos, mais les photos restaient à côté de moi. Mais je voulais faire, je voulais évoluer, ne pas faire une côté photographie. Aïda, par exemple, c'est très différent de comme je fais l'Aïda dans Corto, parce que là, j'ai cherché un visage pareil à la femme de, qui dessinait Parat, un peu proche de, c'est avec, avec, seulement avec le, Winston Churchill que je prends la base de, au niveau photographie, oui. Plus exigeante. Mais mon plaisir, c'est de dessiner les femmes, les visages, mais d'une manière plus sensuelle que parfois, qu'érotique, non? Et c'est des choses, une ligne très, très, très douce. Et, jouer avec le visage, jouer avec l'attitude de, je pense que Pratt fait un peu le même, non? De la femme. Et c'est ça, c'est une recherche. J'ai fait de la layout, je l'ai envoyé à Juan, il m'a dit, OK, en bonne direction, et c'est ça.
Et ça se passe comme ça. Il y a une femme dont on n'a pas encore parlé, c'est Malte. C'est l'île de Malte. Oui, hein, vous lui avez donné le visage d'une femme, d'une femme endormie, avec laquelle le personnage de Corto dialogue. Malte, c'est un personnage réellement dans l'univers d'Hugo Pratt et dans l'univers de Corto Maltese. C'est pas seulement un décor inaccessible, c'est un vrai personnage.
Ça vient parce que j'aimais toujours demander qu'est-ce qui se passe à Malte. Et dans cet aspect, Hugo Pratt nous a laissé très peu de pistes. Et c'est plutôt un rêve pour moi de penser, de savoir comment s'est passée l'enfance de Corto à Malte. Et la relation, effectivement, que lui a avec sa lieu de naissance. Et comme tu as rendu que toute l'histoire d'Équatoria nous parle un peu de le retour au lieu où nous avons né, c'est pas seulement le cas de Corto, mais aussi d'Afra qui cherche les chemins de retour à son village où on peut imaginer qu'il a été kidnappé. Et pareil avec Ferida qui veut prendre les restes mortels de son père pour l'amener à l'Allemagne. Et comme tu as rendu qu'on a cet esprit un peu homérique, on peut dire, un peu...
Oui, on pense forcément un peu à Ulysse et à Ithaque, hein, évidemment.
Oui, oui. Moi, je me suis dit, bon, l'Ithaque de Corto, c'est Malta. Et puis, Ruben a eu la bonne idée de représenter ça avec, comme une femme.
Oui. Alors, précisément, est-ce que ça veut dire que, avec vous, on pourrait voir Corto Maltese mettre le pied sur l'île, retourner réellement chez lui, retrouver son passé? C'est inimaginable, ça?
Je sais pas. On parle de l'aventure, donc on sait jamais on va
rien
arriver.
Rien n'est exclu.
Mais, non, rien n'est exclu. Mais on voit déjà dans cet album que va être difficile. Parce qu'il y a une relation compliquée de Corto avec ses origines.
Oui, qui est peut-être d'ailleurs aussi à l'image des relations de Corto et des femmes, quoi. Ça s'approche.
Oui.
Et puis il y a une forme d'attirance, répulsion. Ouais.
C'est bien beau.
Il a un petit peu de mal à aller au bout de ses relations avec les femmes.
Oui, oui, tout à fait. C'est bien beau.
Et on va s'arrêter quelques secondes pour prendre connaissance des dernières nouvelles du monde. Et on va vous retrouver, messieurs, avec Dominique Petitfaux, notre troisième invité qui nous joindra juste après le flash. C'est un historien de la bande dessinée, un grand spécialiste d'Hugo Pratt, et il vient nous présenter un coffret qui va bientôt sortir le 5 octobre prochain aux éditions du Tripode, et dont il signe la préface. Il est intitulé « Hugo Pratt, voyage avec Rimbaud, Kipling, Baffo », et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet.
Bonjour, avec Juan Diaz Canales et Ruben Pellierero pour Equatoria, le nouvel album des aventures de Corto Maltese, le héros créé il y a 50 ans par Hugo Pratt. Pratt qui disait, Juan Diaz Canales, je le cite, « Il me semble évident que la bande dessinée est un mode particulier de la littérature. » Est-ce que vous pensez la même chose que lui? Est-ce que vous êtes un écrivain et pas seulement un scénariste de bande dessinée?
Pour moi, moi, je préfère, au moment donné, de parler de la bande dessinée soi-même. Ça veut dire que il me semble parfois qu'on cherche évidemment une légitimité en disant que la bande dessinée, c'est littérature aussi. Je comprends que Hugo Pratt disait ça à l'époque, parce qu'on parlait de, ça fait déjà 50 ans. Mais maintenant, je crois que la bande dessinée a montré son pouvoir de communication, son pouvoir d'expression. Et c'est une autre chose complètement différente de la littérature, mais au même niveau.
Par rapport à la
qualité des œuvres ou de messages qu'on va filer à travers des.
Alors, en tout cas, on va parler de dessin, de littérature, de poésie aussi. Avec vous, Dominique Petitfaux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien de la bande dessinée, grand spécialiste d'Hugo Pratt. Vous êtes le préfacier de ce magnifique coffret qui va bientôt sortir le 5 octobre, la semaine prochaine, donc, aux éditions du Tripode. Hugo Pratt voyage avec Rimbaud, Kipling, Baffo, trois écrivains, trois recueils réunis pour la première fois en un seul coffret. Des recueils que Pratt a publiés de son vivant, mais de façon séparée.
Oui, il a publié ses trois volumes de 1991 à 1994.
Avec des textes, donc voilà. Un choix de textes et des aquarelles.
C'est ça.
Il a signé lui-même.
C'est-à-dire il a pris trois auteurs qui sont particulièrement importants pour lui et il a ajouté des aquarelles. Ça fait donc des volumes où des aquarelles et des textes se répondent.
Voilà, mais donc la mise en page, elle est de vous?
Non,
l'avez changé.
C'est la mise en page des éditions originales qui étaient parues chez Vertige Graphique, donc au début des années 90. Mais j'ai fait des textes de présentation, j'ai revu la traduction de Kipling, et je crois que c'était vraiment une bonne idée de réunir ces trois volumes dans un seul coffret.
Il y en a d'autres?
Non. Ce sont les trois seuls volumes, donc il n'y aura pas de deuxième coffret.
Voilà. Alors, Pratt était un très grand lecteur.
Oui, c'était un grand lecteur. C'est quelqu'un qui avait environ 20 000 livres chez lui. Beaucoup de livres, en fait, sur l'histoire, sur les sciences humaines. Beaucoup de dictionnaires, de magazines comme le National Geographic. Mais évidemment aussi de la littérature, et particulièrement la littérature d'aventure.
Stevenson, forcément.
Voilà, bien sûr. Il pensait que c'était le roman de base. Un jour, j'étais avec lui dans une séance de dédicace, et quelqu'un lui demande, Monsieur Pratt, pour la littérature d'aventure, par qui faut-il commencer? Il a répondu, L'île au trésor.
Voilà, forcément. Homère aussi, puisque on évoquait dans la première partie Ithaque et Ulysse.
Bien sûr, il considère que l'Odyssée est le premier roman d'aventure. Il me disait que finalement, dans l'Odyssée, il y a à peu près toutes les situations d'aventure qu'on va ensuite dont on va donner une nouvelle version par la suite. Mais pour lui, c'est vraiment l'œuvre de base. Donc effectivement, Homère et l'île au trésor, ce sont les deux grandes œuvres de base, les deux grandes œuvres fondamentales d'où, à son avis, tout dérive.
Alors, on va commencer par Lettres d'Afrique, et on va passer en revue les trois recueils de ce coffret. Lettres d'Afrique, écrite par Rimbaud. Alors, c'est le Rimbaud le Rimbaud vieux, mais il n'a jamais été réellement vieux, finalement. Enfin, c'est la dernière partie de la vie de Rimbaud, dont il est question. Il était en Éthiopie.
Oui, c'est-à-dire Pratt a passé son adolescence du côté, comme Rimbaud, du côté de Djibouti, de Harare. Son père était un militaire de l'armée fasciste et Hugo donc avait suivi son père. Et donc Pratt a vécu dans cette région de 1937, quand il avait 10 ans, jusqu'à 1942. Et je pense qu'il a découvert Rimbaud parce que d'abord on lui en a parlé quand il était là-bas. Il a même rencontré un évêque, Monseigneur Jarosso, qui avait personnellement connu Rimbaud et qui était un ami de Rimbaud. Et Pratt a été très très marqué par ses années de jeunesse. Il a découvert la guerre pour de vrai, puisque son père l'avait enrôlé un peu de force dans l'armée de Mussolini. Pratt disait de façon un peu provocante, j'étais le plus jeune soldat de l'armée de Mussolini. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que alors que Pratt avait baigné dans le fascisme dans son enfance, il s'en est très vite détaché quand il était là. Et en fait, il a découvert l'absurdité de la guerre. Et c'est ça qu'on retrouve souvent dans ses aquarelles. Alors, en ce qui concerne Rimbaud, effectivement, Rimbaud est très important pour lui. Il l'aimait beaucoup. Ce qui me fait dire que la vie de Pratt a été déterminante sur ses goûts littéraires, c'est que, par exemple, il n'a jamais parlé Pratt de Verlaine.
Non.
Or, pour lui, il n'y a que Rimbaud, ce qui montre bien à quel point, chez Pratt, il est difficile de séparer la vie de l'œuvre.
Mais alors, justement, est-ce qu'on peut faire un lien entre l'album Les Éthiopiques et les lettres de Rimbaud que vous publiez de
nouveau? Oui, c'est-à-dire dans Les Éthiopiques, il y a un lieutenant de l'armée britannique qui lit deux poèmes de Rimbaud. Et là, finalement, curieusement, dans ce coffret, ce qui intéresse Pratt, c'est pas les poèmes de Rimbaud, ce sont les lettres qu'il envoie.
Mais essentiellement à sa famille.
Voilà, c'est ça. Mais je crois que, les spécialistes de l'histoire de la littérature ne comprennent pas bien pourquoi Rimbaud, à 20 ans, arrête. Et pour eux, c'est vraiment un grand mystère. Et c'est vraiment une incompréhension absolue. Mais Pratt, je crois, aimait cette rupture chez Rimbaud. Ce que Pratt aime, c'est justement la dualité de Rimbaud, qui a été un grand écrivain dans sa jeunesse et qui, après, a fait des choses tout à fait différentes et est devenu un aventurier. Et en choisissant des lettres, je pense qu'il veut justement, d'une certaine façon, mettre en évidence non pas le Rimbaud qui écrit des textes que tout le monde a connu, mais le Rimbaud qui écrit des lettres, le Rimbaud qui est devenu commerçant d'armes, par exemple.
Alors, Ruben Peyrero, on parlait de poésie à l'instant, à travers Rimbaud, et c'est vrai que le mot poésie, c'est aussi un mot qu'on accole toujours à l'œuvre de Pratt, et singulièrement à l'univers de Corto Maltese. Comment est-ce qu'on dessine une poésie, comment est-ce qu'on dessine la poésie dans une histoire d'aventure?
On peut jouer surtout avec le silence et le blanc du papier. C'est une manière très particulière de dessiner quelques côtes lyriques dans les dessins. Et la situation du personnage, le visage, peut jouer très bien avec le visage de personne qui parle, par exemple. C'est un côté qui avait beaucoup de poésie, ou sous le regard même du personnage. Et parce que se trouve là, la poésie dans le dessin.
C'est-à-dire que ça permet au lecteur d'imaginer, de laisser envoler son esprit.
Le blanc du papier, par exemple, Pratt connaissait très bien le blanc du papier, comme jouer avec la tâche, et ça permettait au lecteur d'imaginer dans le blanc qui n'avait pas de dessin, la poésie. Dans mon dessin, c'est très différent, pourquoi je remplis beaucoup plus, évidemment, que le dessin de Pratt, mais j'espère laisser avec le scénario de Juan des places pour ces moments de silence et de poésie, de lyrisme.
Ah, qu'ils sont beaux tous ces pseudo-pseudo-artistes, ah, qu'ils sont beaux les rigolos du père Lafuente, avec leur petit sac sur le dos bohème caustique, ça joue en fa et ça joue faux la belle zizique. Pauvre Rimbaud, si tu revenais de ton Afrique, pauvre Rimbaud, si tu revenais, tu serais triste. Tu verrais tes générations apoplectiques conserver des conversations très anarchiques. À Notre-Dame, il y a des poux démocratiques. Faut voir la scène avec ses algues allégoriques. Ça fait rêver les petits bourgeois, c'est ça qui est chic. Ça fait pâmer les petites nanas, c'est ça qui est triste. Pauvre Rimbaud, si tu revenais de ton Afrique, pauvre Rimbaud, si tu revenais, tu serais triste. Tu verrais des générations à prise unique conserver des conversations très anarchiques. T'es pas crado, t'es pas jojo pour un artiste.
Pauvre Rimbaud, Bernard Lavilliers, on ne le reconnaît pas forcément. Bernard Lavilliers qui sera d'ailleurs avec nous dans les jours qui viennent. Une chanson, Clin d'œil au destin, d'ailleurs, qui date de 1967, donc l'année de naissance de Corto Maltese. Alors il y a Rimbaud, on a bien compris, l'anticolonialiste, et avec lui, dans ce même coffret, qui sort donc la semaine prochaine, Rudyard Kipling, l'anglais, grand auteur de nouvelles coloniales, l'homme du fardeau de l'homme blanc, Dominique Petitfaux, c'est étonnant quand même ce voisinage-là.
Oui, ça peut paraître très étrange, effectivement. Mais quand on regarde bien les textes que Pratt a choisis, on voit qu'il ne s'agit jamais, en quelque sorte, de la défense de l'idéologie colonisatrice de la Grande-Bretagne. Dans les poèmes que Pratt a choisis, on voit en fait le soldat, vraiment le soldat de base, qui est à des milliers de kilomètres de chez lui, qui est complètement perdu, et comme je dis, tout ce qu'il espère dans ces guerres, c'est y survivre. Et Pratt est très sensible à cela. Comme je disais, Pratt a connu personnellement la guerre quand il était jeune. Et dans ses histoires de guerre, Pratt ne chante jamais de grands héros. Dans ses histoires de guerre, il montre au contraire des soldats qui sont des soldats perdus. Pratt était très sensible au contexte de la guerre parce qu'il pense que le contexte de la guerre, d'une certaine façon, met l'homme devant ses responsabilités. Dans la vie normale, nous avons tout un code, tout un savoir-vivre. Et parfois, dans la guerre, tout cela n'existe plus. Alors, on voit ce que sont vraiment les gens. Et c'est, je crois que c'est cela qui intéresse Pratt. Et Pratt a beaucoup de compassion, en fait, pour ces soldats de l'armée des Indes.
Alors, il y a deux pages, la page de gauche, la page de droite, évidemment, ça c'est assez normal dans un livre, et sur la page de gauche de ce recueil, il y a le texte original, donc en anglais, hein, de Rudyard Kipling, et puis sur la page de droite, la traduction en langue française. Et c'est vous-même qui avez traduit les oui. poèmes pour cette nouvelle édition.
Oui, parce que les poèmes étaient inédits, et quand on essaye de les traduire, on comprend pourquoi. D'ailleurs, ils étaient inédits parce qu'ils sont très compliqués. En fait,
vous avez eu du mal.
Oui, j'ai eu du mal parce qu'en fait, dans beaucoup de ces textes, Kipling fait parler les soldats de l'armée des Indes. Alors, à notre époque, comprendre l'argot des soldats de l'armée des Indes, c'est pas forcément très facile. Donc, effectivement, ça n'était pas facile.
Alors, on va écouter le résultat de votre travail, justement, quelques vers de l'un de ces poèmes, en français, évidemment, un poème qui s'appelle « Car admiré ».
L'océan Indien se couche et sourit, avec une telle douceur, une telle lumière, un bleu si pur. Pas une vague à des milles et des milles autour, sauf le léger remous de l'hélice. Le navire est balayé, la journée est faite. Le clairon est parti fumer et jouer, et, tache noire dans le soleil couchant, le matelot indien chante. Je suis de vigie, car d'admirer et de visiter et de contempler ce vaste monde, cela ne m'a jamais rien rapporté, mais je ne pourrais pas arrêter même si j'essayais. Je vois les sous-officiers jouer au palais, j'entends les femmes rire et bavarder, j'épie sur la plage arrière les officiers et les dames qui se promènent, je pense aux choses du passé, et me penche pour scruter la mer. Et bien que le navire soit bondé, il n'y a plus personne de vivant sauf moi. Les choses du passé que j'ai vues, dans la caserne, au camp et aussi au combat, je les repasse dans ma tête. Et parfois je me demande si elles ont bien existé, car elles étaient étranges, vraiment très étranges. Mais de toute façon, maintenant c'est fini. Il doit y avoir plein d'histoires comme ça, et si j'attends un peu, j'en verrai d'autres. Oh, je me suis heurté au règlement, et j'ai souvent désobéi à la consigne de la caserne. Et je me suis tenu à l'écart et me suis vu me conduire comme un sacré idiot. J'ai payé le prix de mes expériences, et n'ai jamais trouvé à redire pour payer le prix. Je restais assis en tôle, privé de mes bottes, en admirant l'organisation du monde.
C'est pas tout à fait, hein, dans ce poème qui s'appelle Carte d'admirer, c'est pas tout à fait Gorto Maltese, mais on comprend effectivement pourquoi
oui,
est-ce que
sûr.
Ce poème-là a pu intéresser Hugo Pratt.
Bien sûr, Pratt s'est beaucoup intéressé à la chose militaire. Son père, comme j'ai dit, était un militaire, et puis dans Kipling, il y a l'Orient, il y a tout ça, il y a l'éloignement par rapport à l'Europe, que c'est un thème que Pratt traite souvent. Dans sa série Les Scorpions du désert, il montre comment en fait les soldats deviennent fous. Et c'est tout ça en fait qui le touche. Donc croire que Pratt aimait la guerre, non, c'est un contresens. Il en montre l'absurdité dans ses bandes dessinées. Et ici, en choisissant des poèmes bien précis de Kipling, il montre le soldat perdu. Et c'est lui-même donc ce qu'il fait dans ses bandes dessinées. Donc en fait, Kipling et Pratt ne sont pas opposés comme on pourrait le penser.
Alors il n'y a pas de recueil dans le coffret consacré à Constantin Cavafis, mais ce poète grec, il est dans l'album, hein, il est dans Equatoria, Juan Díaz-Canales. Pourquoi lui? Ça nous ramène à Ulysse, vous allez me dire.
Oui, on a on a évoqué déjà l'aspect homérique du récit, donc ça s'imposait un peu d'une façon naturelle. Et d'abord parce qu'il avait déjà un passage en Alexandrie, que c'est la ville d'origine de Cavafis, et puis la référence à le fameux poème d'Ithac de Cavafis, c'est évident. Et on essaie toujours de ne pas de tout négliger l'aspect littéraire de Cortot, parce qu'on vient de parler mais avec Dominique.
Et érudit, parce qu'il nous entraîne quand même dans des contrées poétiques, littéraires, et pas seulement géographiques, mais extrêmement larges. On se dit, pour pouvoir faire un album de Cortot Maltese, il faut être un sage, un érudit, il faut s'intéresser à tout, et il faut aller creuser, aller chercher là où les autres ne cherchent pas forcément.
Oui, plutôt qu'être sage, plutôt qu'être un érudit, il faut avoir de la curiosité. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique dans les albums de Cortot Maltese. Et c'est ce que j'ai toujours remercié, Hugo Pratt, de m'avoir ouvert la porte à beaucoup de choses que je connaissais pas du tout, soit des écrivains, soit des auteurs de la poésie, des événements historiques on n'a jamais entendu parler, des lieux géographiques pareils, bref, c'est une encyclopédie, mais en même temps, elle n'a pas jamais aimé être didactique.
Ah non, c'est pas du tout rébarbatif.
Donc ça vient d'une façon naturelle, à fur et à mesure que tu avances dans l'aventure, qu'il commence à avoir des suggestions un peu partout. Et pour nous, pour Ruben et pour moi, c'est la bonne piste à suivre, d'y mettre des éléments qu'on tient beaucoup, qu'en même temps on découvre, en même temps qu'on développe l'histoire, et faire pareil que ça qu'on a aimé toujours dans l'œuvre de Pratt.
Alors, pour les curieux, ils peuvent évidemment se plonger dans l'album, ils peuvent aussi se plonger dans ces trois recueils que vous publiez aux éditions du Tripode, Dominique Petitfaux, et notamment dans le troisième recueil. Alors ça, c'est pour les curieux un petit peu taquins, hein, on va dire, puisque dans ce troisième recueil, on retrouve les aquarelles d'Hugo Pratt qui s'accouplent, si j'ose dire, avec les sonnets érotiques de Giorgio Baffo. Alors, présentez-nous ce Giorgio Baffo, parce qu'on le connaît pas. C'est drôle, parce que c'est un homme politique, c'est un magistrat, c'est un homme, a priori, donc extrêmement sérieux, et en même temps, c'est un fieffé coquin.
Oui, alors, il est absent, d'ailleurs, de tous les dictionnaires, en tout cas en France. Effectivement, c'est un magistrat, c'est quelqu'un qui écrit énormément, mais vu sa position de magistrat, ses textes se passent sous le manteau, si on peut dire. On ne peut pas les éditer. La première édition de Baffo aura lieu en 1771, c'est-à-dire 3 ans après sa mort.
On est à l'époque de la République de Venise.
C'est ça. Mais Baffo est un satiriste. Il attaque énormément les curés. Il les supporte pas. Il trouve que ils font peser un carcan infernal sur la ville. Donc, parce que c'est le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est une période, évidemment, à Venise très, 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 très brillante, si vous voulez. Il y a des gens comme Goldoni, comme Canaletto, comme Vivaldi. Mais en même temps, sur le plan strictement politique, ça n'est plus ce que ça a été. Et Baffo dénonce cela. Donc, c'est intéressant de voir comment ce magistrat écrit des sonnets érotiques. Il n'écrit pas que des sonnets érotiques, bien sûr, mais ici sont les sonnets érotiques qui sont rassemblés.
Il y a des pastiches aussi.
Voilà, c'est ça. Et c'est très peu connu. C'est vrai que c'est écrit en dialecte vénitien.
Oui. Là, c'est pas vous qui les avez traduits.
Non, je ne suis pas spécialiste du dialecte vénitien. Et c'est vraiment une découverte en France. On ne connaît rien sur Giorgio Baffo. Alors, Apollinaire, on a parlé dès 1910. Et après Apollinaire, d'autres intellectuels français, mais ça reste quand même très largement méconnu.
Alors, l'érotisme, précisément, est-ce qu'il a complètement sa place dans Cortot Maltese? Parce que j'ai entendu, j'ai lu surtout que Milo Manara, qui était très ami avec Hugo Pratt, aurait pu reprendre le personnage, il l'a pas fait. Mais est-ce que vous pourriez introduire, Ruben Pellerero, des dessins plus osé, plus érotique, sans forcément aller jusqu'à Manara, mais quand même dans un album aussi grand public, aussi familial que Cortot Maltese?
Oui, il y a beaucoup de distance avec Manara.
On est d'accord.
Et parce que une particularité de Cortomaté, c'est ce côté que nous n'avons pas jamais Cortomaté se coucher avec une,
hey, non.
une femme qu'il aimait.
Non, mais alors il disait Pratt, il tombait, je parle sous votre contrôle, oui, oui. Hein, Corto couche mais comme tout le monde, contre, mais il n'a pas besoin de le montrer. Voilà. Vous fermez,
non,
hein,
mais
voilà.
Par contre, comme personnage secondaire, peut avoir, pourquoi pas, une, voilà. une chose prochaine à l'érotisme, évidemment, c'était la sensualité de la femme, c'est évident qu'il a une place, mérite une ouais. place dans une BD.
C'est-à-dire dans les bandes dessinées. Oui, dans les bandes dessinées de Corto Maltese, l'érotisme existe parfois, mais il est diffus, il n'est pas explicite. Pratt me disait que pour lui, l'érotisme devait être réservé aux aquarelles.
D'accord, et effectivement, il ne s'en prive pas. Voilà. Effectivement. Alors, justement, un petit mot très rapidement de ces aquarelles. Quand vous les voyez, vous reconnaissez tout de suite le style Pratt ?
Oui, oui, oui. Oui, oui, d'abord, il en a fait certaines devant moi, et c'était magique, parce qu'il prenait très peu de matière, il prenait beaucoup d'eau. Il agitait la feuille pour qu'elle se sèche. Moi, je ne comprenais absolument rien.
Oui.
Et à l'arrivée, je voyais une aquarelle absolument superbe. C'est un grand aquarelliste. C'est pas seulement un dessinateur de bande dessinée. C'est un très grand aquarelliste avec des aquarelles qui, avec le temps, sont devenues de plus en plus légères, de plus en plus aqueuses.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Alors vous l'avez compris, avant de se quitter, on va partir en Grande-Bretagne, à Londres, même si Big Ben ne sonne pas en ce moment. Pendant tout le mois de septembre, Londres célèbre son fleuve lors du festival Totally Thames. La capitale britannique n'aurait évidemment pas été établie à cet endroit sans la Tamise, alors des dizaines d'événements et d'expositions sont organisés en ce moment pour lui rendre hommage, notamment autour, mais aussi à l'intérieur même du fameux pont de Tower Bridge, dont les entrailles ont été transformées en salle de concert de vendredi à dimanche dernier. Reportage pour VMDN de Marie Billon.
Les visiteurs peuvent monter tous les jours dans les tours néo-médiévales de Tower Bridge, mais rares sont les fois où ils sont invités à descendre dans ses entrailles. C'est pourtant ce que propose Totally Thames pour sa dizaine de concerts dans la Bascule Chamber, la chambre dans laquelle les rouages permettant d'ouvrir le pont se meuvent régulièrement. La performance commence alors que les spectateurs descendent les 120 marches qui les mènent de l'entrée de Tower Bridge jusqu'en dessous du niveau des eaux, où se déroule la partie principale du concert. Adrian Evans est le directeur du festival.
C'est un endroit extraordinaire. Le spectateur est sous la Tamise et entend le bruit des voitures sur le pont. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que quand il s'ouvre, le mécanisme dans cette chambre agit comme un pressage géant et envahit la partie sur laquelle nous sommes assis. Cela crée une atmosphère très dramatique.
L'immense contrepoids plusieurs mètres au-dessus des têtes est en effet intimidant. Mais pas de panique, le pont ne fonctionnera pas pendant le concert, assure Ian Chambers, l'arrangeur et compositeur principal.
Tout a commencé quand j'ai entendu le son du pont se lever et enregistré dans la chambre à bascule. J'ai créé une composition m'inspirant de ces sons extraordinaires, car ce ne sont pas que les mécanismes qu'on entend, c'est aussi le claquement du métal contre le métal. Ça ressemble naturellement à un concert acoustique. Totally Thames a proposé d'organiser des performances dans cet endroit. C'est une énorme caverne en briques, donc l'acoustique est celle d'une petite cathédrale ou d'une grande église. Il y a beaucoup de réverbération. Nous nous servons de cela dans notre interprétation de la musique sur l'eau de Hendon.
Le morceau n'est pas joué en direct, il a été enregistré dans différents endroits de Londres et notamment près de la Tamise. Car c'est ici, il y a 300 ans cet été, que le compositeur allemand a présenté ce chef-d'œuvre. Des partitions jouées par des instruments installés sur plusieurs bateaux le long de l'eau. Ian Chambers a lui aussi décidé d'utiliser le fleuve londonien.
Nous avons placé des micros sous l'eau pour enregistrer les clapotis et tout en haut du pont aussi pour entendre les bruits de la ville. Et nous filtrons les sons en direct pour en extraire des tons spécifiques.
Ian Chambers est un chantre de la musique concrète et il a même décidé cette année d'inverser les rôles dans un morceau composé pour l'occasion.
Dans Musique pour clarinette dans une chambre de résonance, on pousse l'instrument dans ses extrémités. Le son ressemble parfois à une mouette, d'autres fois à un gros bateau.
Et comme Ian Chambers aime s'amuser avec l'acoustique, il joue à nouveau avec à la sortie. Installée tout en bas de la cage d'escalier contenant les 120 marches de métal, une chanteuse accompagnée d'une contrebasse clôt le concert. Le son monte vers la surface en même temps que les spectateurs.
Reportage de Marie Billon à Londres. Il me reste à remercier nos trois invités. Merci beaucoup Ruben Pelliero et Juan Diaz Canales. Equatoria, le nouvel album de Corto Maltese, est disponible chez Casterman. Merci également à vous Dominique Petitfaux pour ce coffret Hugo Pratt Voyage avec Rimbaud, Kipling, Baffo. Un coffret qui sort la semaine prochaine, le 5 octobre précisément, aux éditions Le Tripode. Et je précise également que les voyageurs qui auraient la chance de passer par la gare d'Austerlitz à Paris peuvent découvrir ou redécouvrir Corto à travers l'exposition qui lui est consacrée. C'est jusqu'au 31 octobre. Dans un instant, l'info sur RFI. À demain et vous m'en direz des nouvelles.